Nous allons aujourd'hui expliquer certains degrés qui sont liés à la paracha de Chaye Sara, mais qui sont beaucoup plus larges que la paracha elle-même. Je veux parler en réalité de la réparation que Abraham et Sarah font concernant la résurrection des morts. Et non pas seulement ça, mais d'une manière générale, Abraham et Sarah constituent la racine du peuple d'Israël qui est en train de se dévoiler sur terre. Nous savons qu'il y a une identité Israël qui se trouve dans la pensée divine. C'est un concept. Et ce concept, à un moment donné, doit arriver sur terre. C'est-à-dire que ce concept doit s'habiller, forcément, dans une structure humaine. C'est-à-dire qu'il faut chercher maintenant, il faut trouver maintenant le porteur du message Israël qui va être transmis au monde entier. On appelle ça donc un birour. Et Abraham et Sarah commencent ce système de birour, de tri, de nettoyage, comme si nous partions d'un entonnoir très large, avec toutes les possibilités, et cet entonnoir va de plus en plus se rétrécir pour donner place, en fait, à la véritable structure identitaire du peuple d'Israël, de facto. Nous voyons donc qu'il y a des éléments qui ne font pas partie de ce mouvement, en l'occurrence Ishmaël. Et on voit aussi qu'il y a des terres qui ne font pas partie de ce mouvement, en l'occurrence Chutz La'aretz. C'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu dirige Abraham sur cette terre, et que Sarah, par sa prophétie, comprend qu'il ne faut pas faire grandir son fils, qui est en réalité le futur Israël, avec des éléments qui vont perturber sa croissance. Pas au niveau individuel, familial seulement, mais au niveau de tout le concept, à savoir garder l'identité d'Israël à toutes les générations et ne pas se perdre dans des éléments qui ne font pas partie de notre système, pas par racisme, pas par haine de l'autre, mais par protection des valeurs que le peuple d'Israël doit transmettre à l'humanité. Et donc, on va essayer ensemble de voir quelques données dans ce grand système, dans ce grand concept. Ptichat parashat Chaye Sara, donc lorsqu'on parle de la vie de Sarah, oseket davka bemota shel Sarah imen. On voit immédiatement que, contrairement à ce que nous attendions, au lieu de parler de la vie, on parle de la mort de Sarah. Alors, on va essayer de comprendre, déjà au niveau du texte, si nous pouvons comprendre quelque chose. Hitbonenut bamilim. Donc, on va observer les mots. Shne Chaye Sarah. Le texte nous dit Shne Chaye Sarah. Mafgisha benenu ben shte efsharuyot havana. Il y a deux possibilités de traduire et de comprendre Shne Chaye Sarah. Aleph, ou bien Shne Chaye Sarah bemouvan shel shanim. Shne Chaye shanim, Shne shnot. Ça se dit aussi. Donc, les années de la vie de Sarah. Bet, deuxième possibilité de traduction. Shne Chaye Sarah, bemouvan shel shniyut. C'est-à-dire les deux vies de Sarah. Et pas les jours, les années de Sarah. Shnaim. La Torah préfère la deuxième traduction. Incroyable. C'est-à-dire que la Torah elle-même nous pousse à traduire ce verset comme si Sarah avait deux parties dans sa vie. Une partie qui a précédé sa mort et une partie après sa mort. C'est ce qui est bizarre, c'est qu'on appelle les deux parties vie. Donc il y a une vie avant la mort et il y a une vie après la mort. Et nous, nous devons savoir ce que ça veut dire. Est-ce que Sarah continue son action même après sa mort? Comment est-ce possible?
Peut-être sa vie avant Yitzhak et sa vie après Yitzhak.
C'est la même chose. C'est Yitzhak, c'est le jour de sa mort, où il y a la Brit Mila. La Akeda. La Akeda de Yitzhak, c'est 37 ans.
37 ans.
C'est fini. Mais c'est pas... Au contraire, elle a vécu...
37 ans avec son fils.
Oui, mais alors, les années d'avant...
C'est 90 ans où elle se cherchait, on va dire.
Alors, encore une fois, ça veut dire qu'il y a ici deux parties. Mais là, la Torah, elle ne va pas s'arrêter à ça. Elle va me raconter ce qui se passe après la mort. Elle ne va pas me dire, voilà la vie de Sarah, comme tu es en train de le proposer. Tant qu'elle était sans enfant, elle n'a pas vécu. Elle a vécu juste au moment où Yitzhak est né. C'est pas ce que la Torah nous raconte. En tout cas, pas dans le premier degré du texte. Elle va nous parler concrètement de sa mort. On va l'enterrer. Donc, Perusha Osek Bashniut, la deuxième traduction que je viens de vous proposer, c'est-à-dire la forme double, Shnaim, Shnei Chaye Sarah, les deux vies de Sarah, mais à cette forme-là, Meta'er Davka Mashe Mitrachesh Achrei Mota Shel Sarah Imenu, va s'occuper justement de nous raconter ce qui se passe après la mort de Sarah. Donc il y a face à nous deux époques dans la vie de Sarah. Première époque, Aleph Mashekadam Lemota, ce qui a précédé sa mort. Mashehaya Leachar Mota, deuxième possibilité, deuxième degré, ce qui va advenir maintenant après la mort de Sarah Imenu. Et la parasha osek et davka b'chelek hasheni. Et la parasha, contrairement à toute attente, va justement traiter de la deuxième phase, celle qui est maintenant après la mort. Klomar b'mashe itrachesh davka achrei mota shel Sarah. Klomar sheze mashe haTorah bachara leadgish veyesh lehavin madua. Moralité, c'est ce que la Torah a décidé de garder dans son texte. Et nous, en tant qu'étudiants de cette Torah, nous devons comprendre pourquoi. La Torah, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, est ce qu'on appelle en hébreu « mégamatite ». Qu'est-ce que cela veut dire « mégamatite » ? Elle a un but. Elle ne lâche pas le but. Le but de la Torah, c'est de nous donner au lecteur jusqu'à la fin des temps ce qui lui incombe, ce qui le concerne, même aujourd'hui. Si la Torah était venue me raconter une histoire qui s'est passée et qui n'a pas d'influence sur l'avenir, la Torah ne le fait pas. Il n'y a aucun texte dans la Torah qui traite du présent dans lequel la chose s'est passée, sans donner une leçon pour l'avenir en forme de prophétie. La Torah est la parole de Dieu. Étant donné que c'est la parole de Dieu, c'est une grande prophétie. Toute la Torah, depuis Bereshit jusqu'à Israël, c'est une longue prophétie divine. Et étant donné que dans la prophétie, il y a des règles, Nevuah shehut tzrecha ledorot nechteva. Seulement une prophétie qui touche à toutes les générations à venir a été retenue. Moralité, je dois apprendre de chaque paracha ce que je dois faire au moment où cette paracha se lit. C'est pas seulement comprendre un texte à un moment donné, c'est encore plus fort. Il y a un instant, il y a une semaine. Il y a dans l'air quelque chose cette semaine-là, puisque c'est cette semaine où je lis la paracha en question. Donc dans l'air se passe la même énergie qui s'est passée au moment où ça s'est passé. Donc l'énergie se réveille et me propose, moi, le lecteur moderne d'aujourd'hui, d'utiliser la puissance de ce qui s'est passé à cette époque. Étant donné que le titre que je viens de vous dire, c'est Yesod Triat Hametim, le fondement de la résurrection des morts, ça veut dire tout simplement que hier, Shabbat, si on avait la kavana adéquate, eh bien on aurait dû, et c'est ce que je fais avec mes élèves là où j'habite, je les prépare pendant le Shabbat lui-même à profiter de cette puissance qui s'appelle le retour à la vie ou la résurrection de la mort. Donc je dis de facto à mes élèves ce qu'il faut faire jusqu'à Motsaï Shabbat. Donc il y a quelque chose, alors si ce n'est pas pour cette année, ça sert toujours, mais c'est important de vivre la chose au moment où elle se passe, parce que l'énergie se réveille. כנראה שהתורה רצתה להבליט את המגמה הגנוזה דווקא אחרי הסתלקותה מן העולם. ויש להבין מהי. Donc la Torah, étant donné que c'est une prophétie, vient m'enseigner quelque chose qui s'est passé après la mort de Sarah. Alors on va essayer de comprendre. Chazal mishtomemim, première réaction de nos sages, c'est la longueur avec laquelle la Torah va parler des années de la vie de Sarah. Jamais on n'a vu une formulation pareille de la Torah pour parler de la vie. Donc, Chazal mishtomemim ul orech ha-teur sha-Torah ha-enika le-tziyun shnot chayeha shel Sarah. En effet, que dit la Torah? Va-yu chaye Sarah mea shana ve-esrim shana. Vesheva Shanim. Très bizarre. 100 ans et 20 ans et 7 années. Tu ne peux pas parler normalement, comme tu l'as dit avant, pour tous ceux qui sont déjà morts, et comme tu le diras après, comme ceux qui vont mourir. Jamais on n'a vu une formulation pareille de la Torah. Donc, étant donné que c'est une prophétie, étant donné que nous sommes prophètes et fils de prophètes, c'est comme ça que nous sommes considérés. Al tig ubim shichai ubin vi'ai al tareu. Vous êtes tous des messies en potentiel. Et vous êtes tous des prophètes en potentiel. Et Akadosh Baruch Hu demande aux nations du monde de ne pas toucher ni ces messies, ni ces prophètes. En l'occurrence, nous, Israël. Ça veut dire que nous avons un potentiel en nous. Qu'est-ce que ça veut dire prophète? Eh bien, qui est capable d'entendre. La preuve, on a reçu la Torah, c'est nous qui l'avons entendue. Personne d'autre l'a entendue. Et c'est nous qui la transmettons au monde. La preuve, personne n'a donné la Torah au monde, si ce n'est le peuple d'Israël. Et on continue de le faire aujourd'hui. Deuxième degré, messianisme. Vous êtes tous des messies, nous sommes tous des messies. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais ça veut dire que nous avons un potentiel de rédempter, de sauver le monde. Et on le fait. On le fait dans la médecine, on le fait dans la science, on le fait dans tous les domaines de ce monde. Si aujourd'hui le monde est en train de guérir de ses maux, c'est beaucoup grâce à la force d'Israël qui est en train de donner au monde depuis des millénaires. Donc en réalité, nous jouons ce rôle-là. Donc Mashiach, c'est pas ce que vous imaginez. D'ailleurs, si vous mettez le point à gauche du signe, ça fait Mashiach, c'est-à-dire celui qui est capable de parler, de s'exprimer, Sicha. Ça veut dire que le Mashiach, c'est un dialogue. C'est le dialogue qui est permis d'être réalisé entre qui et qui? Entre l'infini et le monde, via Israël. Yitzhak Avinu, on l'a vu dans la paracha, va yetze Yitzhak la souach basadeh. Qu'est-ce qu'il est allé faire, Yitzhak? Qu'est-ce que ça veut dire, la souach? Je ne sais pas comment, dans vos livres en français, ça a été traduit, mais sûrement se promener, se balader.
Parler aux arbres.
Okay. Mais en réalité, il est allé parler. Il est allé faire une hit bodedout, une hit bonenout. Il a parlé au maître de l'univers. Il a développé un dialogue. C'est ce qu'on appelle une tefila. Tefila, ce n'est pas une prière. La traduction réelle du terme tefila, c'est un lien. En hébreu, l'ilpot, qui a donné naissance à tefilin. Au singulier, tefila. Tefila veut dire un lien. Ptil, une mèche. C'est la même racine. Donc, quand tu pries, entre guillemets en français, ça ne veut rien dire. En hébreu, les hitpalel, c'est pas prier, c'est se relier, c'est dialoguer, c'est faire mèche avec. Nous sommes deux mèches. Et donc, si la tfila circule à travers moi, bien, je suis porteur du message divin, c'est ce que fait Yitzhak. Donc, l'heure à laquelle il le fait, c'est l'après-midi, parce que ça correspond à un degré de son âme à lui. Sans rentrer maintenant dans le détail. Mais c'est ce qu'il va faire. Et d'ailleurs, directement lorsqu'il fait ce lien, eh bien son lien à lui arrive sous la forme de Rivka. Rivka arrive au moment où il se relie. Autrement dit, Rivka, ce sont les lettres en hébreu de Ha Boker. C'est la même chose, c'est Rivka. C'est-à-dire son jour à Yitzhak se lève au moment où il se relie à l'éternité. Vous comprenez comment ça marche? Mais si vous lisez la Torah comme une histoire au premier degré, eh bien Rivka, ça devient Rebecca. Et c'est une femme qui est sur un chameau, qui va tomber, parce qu'elle l'a vu, et c'est un beau garçon. Et elle a honte. Et c'est, il faut arrêter avec tout ça, il faut faire attention, rabotaille. Moralité, je veux comprendre maintenant pourquoi la Torah me parle dans ce langage. La Torah sait très bien parler l'hébreu. Akadosh Baruch Hu, c'est sa langue. Il ne sait pas dire Mea Esrim Vesheva. Les Chachamim voient immédiatement la notion que la Torah vient nous donner. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? En gras, Bat Kuf Kebat Kaf, la Torah vient me dire que Sarah, elle développe quelque chose qu'on n'a jamais vu jusqu'à maintenant. Quand la Torah dit qu'elle a 100, et qu'elle a 20, et qu'elle a 7, nous disent les Chachamim que quand elle avait 100, c'était comme quand elle avait 20, et quand elle avait 20, c'est comme quand elle avait 7. Mais quoi? Qu'elle avait quoi? Eh bien, les Chachamim nous disent qu'elle était aussi propre à 100 ans qu'à 20 ans. Qu'est-ce que c'est 20 ans? 20 ans, c'est l'âge où on rentre sous l'influence divine. C'est-à-dire, si tu fais des fautes avant 20 ans, c'est les parents qui prennent. Après 20 ans, c'est toi. Tu es responsable de tes actes. Chez Sarah, quand elle avait 100 ans, elle avait encore comme 20 ans. C'est-à-dire que si tu l'as vérifié, il n'y avait aucune faute. Comme si c'était donné à quelqu'un d'autre. Mais pas parce qu'elle avait mis ses fautes sur ses parents. Tout simplement parce qu'elle était propre. Elle n'a jamais fauté, cette femme. Incroyable. Et à 20 ans, elle était aussi belle qu'à 7 ans. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ce système? Mais tout simplement, nous sommes face à un être nouveau qui ne change pas. Autrement dit, il ressemble étrangement à qui? À Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui est dit sur l'Éternel lui-même? Ani Hachem, l'oshaniti. C'est-à-dire, chez moi, le changement n'existe pas. Et pourquoi le changement n'existe pas chez Dieu? Parce qu'il n'est pas soumis aux deux. Sheni ou Shnia, c'est pareil. C'est la seconde. Donc le temps n'existe pas chez le 1. Là, on est dans le 2. Qui dit 2, dit possibilité de changement. A, B, distance, possibilité de changer. Notion de temps. Dans tous les langages. C'est-à-dire, quand il y a un, il n'y a pas de temps. Secunda, second, second, shnia, temps. Chez Akadosh Baruch Hu, le temps n'existait pas. Et nous sommes maintenant face à une femme où, apparemment, le temps n'opère pas sur elle, n'a aucune emprise sur elle. Elle ne change pas. Donc elle a fait ce qu'on appelle dans la Kabbalah une hishtavut hatsura. Sa forme humaine est terriblement ressemblante à la forme divine, qui ne change pas. Alvay alem.
Amen.
C'est-à-dire que Sarah ici, elle a quelque chose de très fort. On va essayer de jouer avec les lettres. Sarah, Shin, Resh, He. Quelle est sa valeur numérique? Shin, 300. Resh, 200. 5. 505. 505, je continue à faire le Tzimtzum. 5 plus 5, 10. 1 plus 0, 1. Ça veut dire que Sarah est dans l'unité divine. Elle ne change pas. Il n'y a pas de deux chez elle. Effectivement, ça marche. Donc, Sarah va jouer le rôle de Dieu
sur terre.
Donc, elle est bien la maman, la matrice du peuple d'Israël qui doit justement jouer ce rôle. C'est pour ça qu'il va être créé. Et là, donc, on est en train de voir qu'il y a quelque chose d'énorme qui est en train de se passer. Dans la Kabbalah, nous parlons de centaines, de dizaines et d'unités. Comme en mathématiques. Donc elle a 100 ans, plus 20 ans, plus 7 ans. Eh bien, les 100 ans, c'est ce qu'on appelle le monde de Hatzilut, parce que c'est le monde le plus élevé. Mais comme on ne touche pas dans le Hatzilut, on est dans Beria. Beria, c'est notre monde. Donc, Sarah, elle a 100 ans dans la Beria, c'est-à-dire qu'elle est parfaite. 100, c'est le chiffre complet. Elle a 20 ans dans les dizaines. Les dizaines, c'est quoi? Mais c'est la Chochma et la Bina. 10 et 10. Et elle a 7 années au niveau des unités, c'est-à-dire les sept sphères d'en bas. Donc maintenant, quand je compte l'année ou les années de Sarah, je suis en train, en réalité, de dessiner un arbre de Sephiroth. Donc Sarah, c'est quoi? Bien, c'est la descente, entre guillemets, de l'infini dans le fini, à travers l'arbre sphirotique. Vous voyez qu'on dépasse le degré humain de la chose. Ça va beaucoup plus loin. Donc, nous sommes ici, Yeshkan Tsiyun, Shel Dmut Enoshit Radasha. Donc nous sommes face à quoi? Une nouvelle race. J'allais dire d'hommes, d'humains. Il y a un monde avant Sarah, pré-Sarah, et il y a un monde post-Sarah. C'est pas le même monde. Bederech klal ha'chayim ba'olam hazeh netunim leshinuyim. D'une manière générale, la vie, c'est le changement. Tout change dans ce monde. Nous sommes dans un monde de permutation. Seulement sur le Créateur, lui-même, béni soit-il, qui est dans l'unité, chez lui, il n'y a pas de changement. Veine. Et voici que Omedet lefanenu hadmuta enoshita rishona shedoma letrunotav shel haboré kivyachol. Je fais face maintenant, dans le texte de la Torah, à un être humain qui est en réalité l'unité de Dieu sur terre. Nous allons retrouver cette unité de Dieu sur terre. Nous le disons dans nos prières. Ata echad, veshimcha echad, umikamcha Israël, goy echad. Ça veut dire que Israël, effectivement, est le un dans un monde de deux. Tout ce monde, c'est un grand 2. B, Réchit, ça commence par la lettre B. Donc, le seul peuple qui est dans le 2, mais qui n'a jamais oublié le 1, c'est Israël. Sans se sauver pour autant du 2. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de quitter le monde de la pluralité, du pluriel, pour jouer mon rôle de porte-parole de l'unité. Vous êtes avec moi ?
Oui, mais Sarah, elle n'avait pas de bitachon, et puis elle a demandé à Agar.
Qu'est-ce que ça veut dire, elle n'avait pas de bitachon ?
Elle a demandé...
Qu'est-ce que ça veut dire, elle n'avait pas de bitachon ?
Qu'elle sera la mère du peuple juif.
Ben, voilà qu'elle avait. C'est une prophétie. C'est une prophétie. Seulement, il y a des degrés à sortir. C'est ce que vous lisez au premier degré. Mais maintenant, je vous propose un deuxième degré. C'est que il y a une règle dans ce monde. L'Eolam haklipa kodemet la prit. Avant que le fruit ne sorte sur un arbre, je suis obligé de sortir quoi ? Une écorce. Qui va devenir une fleur ? Qui va devenir un fruit ? Ça veut dire qu'il est nécessaire, avant de faire apparaître le fruit en question, ici Israël, que sorte ce qui empêche, ce qui embête, ce qui obstrue. C'est ça le secret. Et Sarah le sait. Donc il va falloir faire sortir un degré sauvage, d'un état nature, à l'âge de 86 ans. De Abraham, 86 en valeur numérique, Hana Ateva, la nature. C'est la même valeur numérique, Ateva. 5 plus 9 plus 2 plus 70, 86. Une fois que cet enfant va sortir, qui s'appelle Ishmael, on garde maintenant Yitzhak. Et c'est pas fini, puisque le tri va continuer. Il y a encore Esav. Mais faites attention, le tri devient de plus en plus délicat. Puisque là, il s'agit de deux femmes différentes, alors que bientôt, il va s'agir de une seule femme, un seul ventre, celui de Rivka, qui va faire sortir du même ventre de la Kedusha deux nations. Israël d'un côté et Esav de l'autre. Ça devient plus compliqué. C'est comme le finish, c'est comme le dernier degré. Autrement dit, lorsqu'on avance dans l'histoire, les nuances deviennent de plus en plus floues. Et c'est là où il faut fournir le plus grand du travail et être dans la délicatesse. C'est pour ça qu'il faut rentrer dans le secret du texte pour pouvoir comprendre. Sinon, c'est un texte et on s'arrête au premier degré. Sarah n'a pas de bitachon. On ne peut pas jeter des notions comme ça. Il faut comprendre. Et les Chachamim viennent justement faire attention en nous disant Sarah Gdola me Avraham Benevoa. Sarah est beaucoup plus grande qu'Abraham, elle connaît, elle sait tous les secrets. Plus que son mari Abraham. Azman Keilu Eno Poel Alea. Donc, il s'agit d'une femme, d'un être nouveau, où le temps, le temporel n'agit plus sur elle. Israël, comment est-ce qu'on l'appelle ? Am Hanetzach, le peuple de l'éternité. Pourquoi ? Ben, c'est la même chose. Notre maman était déjà comme ça, c'est-à-dire le temporel ne joue pas sur elle. Vous avez des exemples pour me dire que effectivement le temps ne jouait pas contre Sarah ? On vient de donner un exemple au niveau de sa beauté et de ses fautes.
Elle a accouché de...
Quoi d'autre ?
90 ans, elle a
l'enfant. 90 ans, ça veut dire que c'est hors nature. On peut prendre ça. Quoi d'autre ? Les Chachamim nous disent qu'il y a trois éléments qui définissent Sarah.
Hachem disait à Abraham, demande à Sarah.
Pas demande. Ce qu'elle te dira, écoute-la. Mais c'est autre chose. Elle était belle, d'accord, parce qu'elle était comme une fille de 7 ans. Mais c'est pas... Les Chachamim nous disent trois choses. Anan Kashur Ba'ohel. Il y avait une nuée au-dessus de sa tente. Qu'est-ce que c'est que cette nuée ? La Shekhina. Pourquoi est-ce qu'elle est au-dessus de sa tente ? Qu'est-ce que ça vient m'indiquer ? Rappelez-vous dans le futur... Quand on va sortir d'Égypte, quand on va se libérer, on va nous aussi voir cette nuée. Ça veut dire que Sarah voyait la nuée bien avant que le peuple d'Israël ne soit réalisé. Et c'était où ? Eh bien, à sa porte, dans sa maison à elle. C'est extraordinaire. Elle n'a même pas besoin de sortir. Elle est dans sa tente. Qu'est-ce que ça veut dire, elle est dans sa tente ? Pas qu'elle est assise dans sa tente parce qu'elle a la tente de la voisine où elle ne rentre pas pour demander du lait et des œufs.
C'est qu'elle a déjà tout chez elle.
C'est qu'elle a son identité. Elle a compris où est son chez moi. Où est mon identité, où est ma structure. Je n'ai pas besoin d'aller habiter ailleurs. Je n'ai pas besoin de faire un séjour en exil. Vous comprenez comment ça va loin tout ça? Alors, prendre le texte de la Torah dans ce degré-là, ça vous enseigne ce que le peuple d'Israël devra faire au moment où il apparaîtra dans le monde. Dans l'avenir.
Si c'est le représentant de la Kadosh Baruch Hu, comment elle a pu descendre en Égypte ?
Bien fait. C'est pour ça que il y a, c'est ce que je disais tout à l'heure à madame, des degrés qu'il faut nettoyer. Et cette descente en Égypte est encore une fois un symbole qui va se passer chez qui ? Chez les enfants. Puisque les enfants d'Israël, eux aussi vont descendre en Égypte. Et eux aussi vont se faire, entre guillemets, prendre par le roi, comme si nous étions une femme, ce qui a donné naissance à tous ces fameux dessins animés où il y a toujours la belle princesse qui est volée par un certain roi et le beau prince charmant doit venir la sauver. Ça vient de chez nous. Et comme la galoute s'appelle un sommeil, alors la belle, elle est au bois dormant. C'est pas le bois qui dort, hein. C'est elle. Parce que dans le bois dormant, on ne sait pas qui dort. Et donc, il va falloir l'embrasser. Et c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu nous dit. Neshika. Pour nous réveiller. Yeshene Afar. Vous qui êtes endormis dans la torpeur de l'exil. On s'appelle des endormis. C'est exactement pareil.
On dit qu'elle n'est pas morte par le serpent. Elle est morte.
Léat. Ça, c'est la première des choses, la nuée. Deuxième des choses.
Nerf.
Nerf. Dans sa maison. Il y avait toujours le nerf, c'est-à-dire elle allumait le nerf le vendredi soir, alors qu'elle n'avait pas encore la Torah, telle que nous l'avons. C'est-à-dire elle n'avait pas le livre, mais elle avait la Torah. Parce que beaucoup de gens confondent le livre avec la Torah. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Quand vous allez sortir de votre tête que la Torah, ce n'est pas un bouquin, ni un livre, ni un parchemin,
c'est une prophétie.
Vous allez guérir. Qu'est-ce de l'exil ? La Torah, elle est inscrite dans vos ADN. Pas besoin d'un texte. Le texte, c'est parce qu'on n'a rien compris et qu'on a oublié. Alors, on nous a recopié la Torah sur des textes. Mais Abraham, il n'avait pas ce texte-là. Et pourtant, il faisait toute la Torah. Eh bien, lorsque Sarah allume, qu'est-ce qu'elle allume en réalité ? Pourquoi doit allumer une veilleuse ? Pourquoi on allume une veilleuse ?
Éclaire le monde.
Pourquoi éclairer le monde avec une petite bougie ? Tu te fous de qui ?
Non, descendre la...
Tout simplement, elle allume ce qui a été éteint. Chava, elle a tué la lumière du monde qui était Adam. Adam. Elle a éteint Adam, puisqu'elle a amené la mort. Par sa faute, on dit que Adam était la lumière. Donc elle a éteint la lumière. Kutnot Or, c'est devenu Kutnot Or. Donc maintenant, la femme, qu'est-ce qu'elle fait ? C'est l'une de ces mitzvot à la femme. Quand vous allumez les veilleuses du vendredi soir, vous devez penser à quoi ? À ramener la vie dans le monde. C'est-à-dire à annuler la notion de mort que vous croyez tous naturelle.
Plus maintenant.
Troisième degré, le pain. C'est la même chose. Adam Arishon, c'était la challah du monde. Étant donné qu'elle a perturbé cette challah, elle va devoir faire le pain. Et donc la femme, lorsqu'elle fait le pain, elle prélève la challah, et là aussi elle guérit de la maladie, de la mort qui est arrivée à cause de ça. Et le pain qu'elle faisait Sarah, qu'est-ce qu'il avait comme particularité ? Il restait chaud du vendredi au vendredi, comme le pain du Beth Amikdash. Autrement dit, Sarah, elle a un Beth Amikdash privé, individuel, chez elle. C'est elle le Beth Amikdash. Donc tout ce secret vient, et la dernière des corrections, celle qu'elle va avoir un retour de sang, de couche, et elle va immédiatement l'annuler, parce qu'elle va donner la vie. Quand une femme est enceinte, c'est fini. Vous comprenez ce qui se passe là? Ça veut dire, on lui dit, regarde, il faut que tu corriges aussi les règles, le sang des règles, l'anida. D'où est-ce qu'elle est venue l'anida dans le monde? Il n'y avait pas de sang, la femme ne voyait pas de sang. C'est nouveau.
C'est la mort.
C'est la mort. La mort n'existait pas. La faute étant, la mort est arrivée. La femme aujourd'hui qui observe la mitzvah de l'anida et qui va au mikvé, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, transforme la même chose, la mort en vie. Donc nous avons ici trois choses, la chala, l'anida et la hadlaka des nerot. Ça s'appelle chana ou hinna. C'est pour ça qu'avant le mariage, on fait le henné. D'accord? Le henné, c'est quoi? C'est pas le henné, ça veut rien dire le henné. En hébreu, c'est china. C'est-à-dire, on corrige la chala, on corrige l'anida, on corrige la lumière du monde et avec ça, on se marie. Quelle?
Question, je m'excuse, un peu naïve. Mais
si vous vous excusez, vous n'avez pas besoin de moi. Quel?
Elle était à un tel niveau, je ne comprends pas pourquoi on a eu besoin d'Ishmaël.
Il y a fait. On a besoin d'Ishmaël parce qu'il faut, encore une fois, sortir de soi des degrés.
Les déviances.
Vous et moi, tous, on a encore aujourd'hui ces degrés en nous. Tant que je ne me suis pas débarrassé de mon propre Ishmaël intérieur, de mon propre Esav intérieur, je ne peux pas faire décoller mon Israël intérieur. Mais c'est ça la Torah. Toute la Torah, c'est ça. C'est faire en réalité nos retrouvailles avec le degré Israël qui est en moi. Donc je dois tout faire pour le rechercher, pour le retrouver. C'est pour ça que vous venez au cours. Si c'est pour moins que ça, c'est pas la peine de venir. Donc, moralité, nous sommes ici dans un degré qui est infini, comme le peuple d'Israël qui sortira. L'ozobilva de la sheikdola, mais Abraham benevoa, donc elle est plus grande qu'Abraham, comme nous l'avons dit tout à l'heure, en ce qui concerne la prophétie. Aïsouk besara imenu, mavlit et kanauta, l'isruto abiladit shel am Israël al eret Israël. Et maintenant, on va essayer de voir dans les détails comment Sarah est zélée concernant la terre d'Israël. Sarah gam kanaït botamida, avant d'y arriver, on remarque aussi, et tout ça c'est dit quand? Maintenant, après sa mort. On remarque aussi quoi? Les shmirat zeuto shel am Israël he'atid latzed mimena. Elle a toujours fait attention, et ceci bien avant qu'elle meure, à ce que le peuple d'Israël, donc son fils Yitzhak, n'aille pas se perdre. Il omède al kach chez Ishmael lo irash imbni imitzrak. Qu'est-ce que ça veut dire lo irash? Il n'aura pas d'héritage sur la terre d'Israël. Rabotai. Si un Raver Knesset disait ça sur le podium de la Knesset, Sarah, notre mère, notre matrice, nous a avertis, nous a mis en garde. Il ne faut pas qu'il y ait un fils d'Ishmaël qui hérite de cette terre. Si tu fais quelconque accord avec lui, tu es en train de mourir. Tu fais un accord avec la mort. On n'entend pas. Pourquoi je vous ai dit que la Torah est une prophétie? Parce qu'elle m'incombe aujourd'hui. Si je ne sais pas lire au présent cette histoire et je la laisse au passé, mais je n'ai rien compris. Est-ce que j'ai le droit de lire la Torah? Par exemple, je ne sais pas, le lecteur s'est trompé, il a sauté quatre phrases, il continue, après il rattrape la phrase.
Non.
Dans la Megillah d'Esther, par exemple, on n'a pas le droit. Comment c'est dit en hébreu dans la halakha? Hakore et ha Megillah le mafrer lo yatsa. Premier sens, quiconque lit la Megillah avec des sauts et retours et machin, l'Oyatsaz, il n'est pas sorti, il n'est pas quitte. Alors ça c'est bien gentil, c'est au niveau de la halakha, j'ai compris, je dois recommencer. Mais qu'est-ce que ça veut dire au niveau profond? Que si ton histoire, tu ne sais pas la lire normalement, et que tu la lis à l'envers, comme si elle était en train de repartir vers sa source là-bas, mais qu'elle n'a aucun rapport avec ton présent, Loyatsa, tu sortiras jamais! Tu ne comprends rien! Ve'akadosh baruchu mitarev et Yitzhak, pardon, Abraham, qui ne comprend pas ce que sa propre femme lui dit, et qui se met en colère. Eh bien, il faut une intervention divine. Vous avez déjà vu, vous, une intervention divine qui rentre dans la maison et qui dit au mari, te tais maintenant. C'est incroyable. Chaque femme, elle rêve de ça.
On achète, hein.
Et regardez la finesse d'Akadosh Baruch Hu. Kol asher tomar lecha Sara, Shma
Bekola.
Shma Bekola. Est-ce que quelqu'un peut me traduire? Tout ce que Sarah te dira, quel est le verbe ici? Non. Amira. Amira, Omer, Kol asher tomar lecha Sarah, Shma. Elle aurait dû dire Be Amirata. Puisqu'elle a utilisé le terme de Amira. Pourquoi la Torah dit Shema Bekola? Qu'est-ce que ça veut dire écoute Bekola? Tu écoutes quoi?
Son intériorité.
L'intériorité, ça veut dire quoi? Quelqu'un peut m'expliquer aujourd'hui?
Le ressenti.
Ah, ça veut dire que quand ta femme, tu rentres à la maison et elle te dit encore t'attarder, toi, au lieu de t'énerver parce que tu prends le premier degré, tu devrais entendre. Je t'aime, je t'ai langui. Mais ça, les hommes ne sont pas capables de faire. Et c'est ça le problème. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu dit. Kol asher tomar lecha Sara, al tishma ba'amira, shma bekola. Je te demande d'être beaucoup plus profond, toi, le mec. Tu joues au mec. Eh bien, je veux savoir si tu es un vrai mec. Écoute ce qu'elle ne t'a pas dit avec des mots, mais ce qu'elle pense. Ça, c'est déjà une autre paire de manches. C'est pas moi qui le dis, c'est Akadosh Baruch Hu. Mais quand vous traduisez en français, forcément, vous n'entendez pas ces nuances. Il n'existe pas ces nuances, elles n'existent pas. C'est parce que vous venez écouter un cours et que je vous explique le langage. Regardez, mot à mot, je ne vous raconte rien des salades. Et donc, sa puissance se met en place. Et Abraham commence à comprendre qu'il a affaire à quelque chose. C'est même plus à quelqu'un. C'est quelque chose. Lechazeket emdata biyachas leemdato shel Abraham. Sarah imenu melea da'at. Sarah est remplie de da'at. D'où est-ce que je sais qu'elle est remplie de da'at? Non, pas de savoir. Qu'est-ce que c'est la da'at? C'est plus que la connaissance. Le discernement, la connexion des choses. C'est la chokhma et la bina, c'est le da'at. Quand vous avez du da'at, qu'est-ce que vous savez faire dans votre vie?
On voit les choses à l'avance.
Mais dis un mot. Un mot.
Discerne.
La havdala. La différenciation des choses. La preuve. Donnez-moi une preuve. Motza et Shabbat. Ata chronen le Adam da'at. Ata chronen Adam qui fait l'avdala. Ça veut dire, quiconque n'a pas de da'at ne peut pas faire l'avdala. Avant que tu arrives à la maison et que tu allumes les bougies, je parle de l'avdala que nous faisons dans la Amida de Motza et Shabbat. Quand est-ce que tu fais l'avdala dans la Amida? Parce que les hommes font l'avdala avant de rentrer à la maison. Sinon, ils ne peuvent pas prendre la voiture pour revenir. Donc, quand est-ce qu'on fait l'avdala dans la Amida de Motza et Shabbat? Ata chronen le Adam da'at. Akadosh Baruch Hu, donne-moi du da'at. Tu m'as donné du da'at, je peux maintenant
l'avdil.
Da'at en havdala minayin, nous disent les chachamim. Si tu n'as pas de da'at, jamais tu pourras faire la différence des choses. Tu vas être quelqu'un de grossier qui n'a pas les nuances dans sa tête. Pour avoir des nuances, il faut avoir une finesse. Et si tu ne sais pas faire les nuances des choses, c'est que tu n'as pas de da'at. Tu es trop grossier. C'est pour ça que Sarah, elle, est capable de faire la différence entre le Kodesh et le Chol, entre Israël et les nations, entre le Shabbat et les six jours, comme ce que nous faisons. דווקא אחר פטירתה של שרה אימנו נתקעה יתד של הזהות הישראלית של עם ישראל בארץ ישראל. Qu'est-ce que nous venons à voir maintenant, au moment de sa mort? Première acquisition.
Il achète le terrain pour ça. Pour
d'un terrain sur la terre d'Israël. Ça veut dire en réalité, qui c'est qui a acheté ce terrain?
C'est elle déjà.
C'est elle. D'où est-ce que vous savez que c'est elle? Parce qu'elle a décidé de mourir à cet endroit.
À cet endroit.
Donc, quand elle a décidé de mourir à cet endroit, elle a forcé son mari d'acheter un nouveau terrain dans cet endroit. Mais c'est quand même bizarre, quand même. Le premier terrain acheté en terre d'Israël, c'est un tombeau.
C'est pour un terrain.
C'est pas beau, quand même. On aurait préféré un beau champ fleuri de coquelicots, de je ne sais quoi. Qu'est-ce que c'est que ce union? Pourquoi Sarah nous oblige à acheter un terrain, une acquisition sur la terre d'Israël? Et cette acquisition, c'est un tombeau, c'est-à-dire... Elle meurt pour l'acheter. Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est l'avenir. C'est sa mort, c'est l'avenir.
La mort, c'est l'avenir.
Non, elle est morte, on dit, avant, après.
Triatamétim. Ça, c'est parce que vous avez appris que triatamétim, mais je veux aller dans quelque chose de beaucoup plus profond.
C'est de là que nous avons appris qu'il faut acheter le terrain. Moi, mes parents l'ont acheté il y a 20 ans.
Oui. Ils ont raison de l'acheter même il y a 25 ans. Okay. Mais qu'est-ce que ça veut dire?
C'est marqué notre présence.
Qu'est-ce que ça veut dire, c'est un makom kavua? Ça va plus loin, ça va. Ça va plus loin que ça. Vous êtes en train de vous approcher. D'accord, mais c'est encore plus loin. Si Abraham avait acheté un champ qu'il fallait labourer, et en labourant ce champ, il aurait fait grandir des arbres. Il aurait dit, voilà ma terre, la preuve c'est que j'ai planté. Là, Sarah nous dit, la terre d'Israël appartient au peuple d'Israël, même si tu ne fais rien, même si tu meurs, même si tu es dans la passivité la plus grande. Et voilà, je vais vous le prouver, je meurs ici,
et la terre
m'appartient. Autrement dit, il y a un lien intrinsèque entre la terre et le peuple d'Israël. Même si ce peuple d'Israël n'est pas sur cette terre, elle lui appartient. Et même s'il est mort sur cette terre, elle lui appartient. Qu'il ne fasse rien du tout ou qu'il fasse, ça ne change rien au lien. Est-ce qu'il y a un plus grand lien d'amour? C'est comme entre un homme et une femme. Si l'amour que j'ai pour toi, c'est quand tu fais...
À manger.
Je voulais pas parler de ça. Mais peu importe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon amour est lié à tes actes. J'ai un intérêt. Mais si je dis que tu sois là ou que tu ne sois pas là, même si tu n'es plus là, Chas v'shalom, mon amour ne change pas. Comment elle se sent, cette femme? Aimée pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'elle fait. Aujourd'hui, quand vous amenez quelqu'un chez vous à la maison, ou pour votre fille ou pour votre fils, la première question des parents, c'est qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie?
Qui?
Celle qu'on amène. Et de qui je parle?
Je ne sais pas.
Ce qu'il fait son père.
Ça veut dire qu'on est devenu des qu'est-ce qu'il fait? Personne ne se pose la question qu'est-ce qu'il est? Quand des élèves tapent à la yeshiva et que je suis avec la porte fermée et que je pose la question qui est-ce et qui me répond je suis un élève du shiur gimel, je ne l'ouvre pas. Il comprend pas, le pauvre, il continue à taper. Je lui dis qui est-ce, il me dit je suis un talmid du shiur gimel, je réponds pas. Au bout d'un quart d'heure, il en peut plus, quoi. Il tape, je lui dis qui est-ce, il me dit mais je vous ai répondu. Je dis non, tu m'as dit ce que tu fais. Tu m'as pas dit qui tu es. Tu m'as dit que tu étais un élève du Shiur Gimel. Mais moi, je voulais savoir que tu t'appelles
comment?
David. Tu m'as jamais dit je suis David. Je suis un élève du machin. Bonjour, je suis le docteur machin. Bonjour, je suis le professeur machin. C'est comme ça qu'on se présente aujourd'hui. Chelkata Adama Rishona Sham Israel Rachash Ba'aretz Azot Yasiman Lebanim. Donc, cette acquisition, première acquisition, elle est beaucoup plus forte que ce que vous avez pensé jusqu'à maintenant. Pourquoi ? Parce qu'elle appartient à un mort. Donc, il ne fait plus rien, et pourtant, ça lui appartient. Chevron. La royauté d'Israël qui va venir dans l'avenir, la première royauté, elle est où ? À Chevron. Ça veut dire que Chevron, c'est la ville de la royauté. Comment on appelle la royauté en hébreu ? La Malchut. Pourquoi c'est important, donc, que Sarah soit à Chevron et pas ailleurs ? Parce que s'il n'y a pas de royauté, avec les mots modernes, s'il n'y a pas de souveraineté Israël sur sa terre, qu'est-ce qu'il ne peut pas y avoir ?
De
Kodesh. De Kodesh, ça c'est la deuxième degré, c'est Yerushalayim. Je vous le dis maintenant avec mes mots à moi. S'il n'y a pas Hebron, il n'y a pas Yerushalayim. S'il n'y a pas de Malchut, où est-ce que tu veux déposer la lumière du Kodesh ? Il n'y a pas. Donc Hebron va représenter la royauté, qui est le Kli, et Yerushalayim va représenter Yerushalayim Irha Kodesh. Ah, Yerushalayim, donc c'est le Kodesh. Mais la Malchut, la royauté, c'est Hebron. Et c'est pour ça qu'il faut avoir ces deux degrés. Et qui fait le lien entre Hebron et Yerushalayim? Parce qu'en réalité...
Shem.
Il fait, mais autre. J'ai une sucette. Shem, c'est le troisième degré. Shem appartient à qui? À Yosef. Yosef, c'est quoi dans le corps humain? La Brit Mila. Donc, qui fait le lien entre la Malchut, qui est la femelle, et le Kodesh, qui est le masculin? Le Yesod, la Brit Mila. Donc vous avez Hebron, Shrem et Yerushalayim. Si vous ne comprenez pas ce système-là, trilogique...
Il nous manque Shrem, alors.
Le Vadaï. J'arrête pas de le dire aux ministres qui viennent écouter mon cours. J'ai des ministres qui habitent dans mon village et tous les Shabbats, ils sont là. Et je lui dis, tant qu'on n'aura pas Shrem, vous pouvez rêver de Yerushalayim et de Hebron, il y aura toujours la panique. Vous n'avez rien compris. C'est comme si tu ne faisais pas attention à ta Brit Mila. Tu l'as donné, Chas Veshalom, ta Brit Mila. D'ailleurs, le pauvre, c'est toujours lui qu'on jette. Quand un homme, il est faible, qu'est-ce qu'il fait ?
Bien sûr.
Il ne sait pas tenir cette partie de son corps, on est d'accord ? Ce n'est pas du jeu de mots. Hein. Yosef, pourquoi on l'a jeté dans le trou ? C'est toujours le même qu'on jette. Dans n'importe quel trou. Sans rentrer dans les détails. Mais vous comprenez comment la Torah, elle parle en allusion ? Et quand tu n'es pas dans le trou qui convient à la Kdoucha, qu'est-ce que dit la Torah sur ce trou-là ? Des serpents et des scorpions, il y a là-dedans. Là, ici, tu sais même pas où tu rentres.
Des morpions.
Quel ? C'est les scorpions et les serpents. En même temps, ça fait morpion, c'est ça ? Vous comprenez ce que ça veut dire, tout ça ? Eh bien, tout ça, c'est un équilibre. Maintenant, si cette ville s'appelle Hebron, c'est qu'elle fait le lien. Et là, on vient à ce que tu disais, Sarah. C'est qu'on a un lien avec qui ? Mais avant tout avec le ciel. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, quel était son but au moment de la création du monde ?
De descendre.
De descendre quoi ? De descendre qui ?
De
résider. De
résider.
Comment ça s'appelle ? Malchut, Shrina, c'est la même chose. Donc j'ai besoin d'une ville qui fasse le la réflexion. Réflexion du sens miroir. Hein. Reflet. D'ailleurs, c'est comme ça que devrait être une réflexion. Quand tu fais une réflexion à quelqu'un, c'est tu le fais entendre ce qu'il vient de lui de dire. Pas Stam, tu dis des choses, on appelle ça une réflexion. Non, une réflexion, ça vient du mot reflet. Moi, je n'ai pas appris le français à l'école. J'ai appris le français avec un maître. Donc, j'ai tout l'avantage de savoir le sens exact des mots. Alors, comment je fais pour refléter ? Eh bien, le nom d'Hachem, le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est le tétragramme. Yud, Ke, je ne marque pas le He parce que je n'ai pas le droit d'effacer. Donc, je mets un H. On est là. Le monde des valeurs, des idéaux, comment il s'appelle ? C'est le Hé. D'en haut. On appelle ce monde-là le Olam Abba. C'est le monde des idéaux. Et le monde d'en bas, concrétisé, c'est la lettre He, c'est la même chose. Vous voyez que celle-ci doit être exacte, identique à celle-ci. Ce sont deux sœurs jumelles. Oy va avoy s'il y a un décalage entre le He d'en bas et le He d'en haut. Donc j'ai besoin de multiplier ce He pour le concrétiser en bas. Eh bien, je vais prendre le He et je vais multiplier par le He. Comment on dit multiplier en hébreu? Kafoul. Donc mechapel. Donc ha mechapel ha hamachpela. Hamachpela, c'est he kafoul he. C'est en hébreu, mais il faut savoir lire. Ha mechapel ha. He mechapel ha. He. Et he kafoul he. He mechapel he. Hamachpela. Égal combien? 25. 25, c'est quoi? C'est quoi 25? Bien, c'est le retour de la lumière sur Terre. C'est pas par hasard que Hanouka, ça tombe le 25. Et le 25e mot de la Torah, c'est lequel? Or, comme par hasard. Ça commence à faire beaucoup de hasard quand même. Donc, ce que vient nous faire ici, vous voyez que le texte, il est simple, j'ai rien touché. Mais à quelle vitesse on est passé dessus? Le kidouche, un petit pastis, un petit machin, tu veux des cacahuètes. Et combien de Shabbat on rate comme ça? Combien de trucs?
Les athlètes.
Alors, Baruch Hashem, c'est pour ça que vous êtes là pour étudier. C'est très important. Donc, vous comprenez maintenant, vous avez un secret de Meharat Hamachpelha. Alors, vous vous le dites, Meharat Hamachpelha. En plus en français, avec l'accent où il n'y a pas de « hé », il n'y a que des « a », « amarpela ». Tu n'entends même pas qu'il y a un « hé ». Mais commencez à dire les « hé », n'ayez pas peur. Sinon, vous allez toute votre vie garder cet accent. « Amarpela ». « Animerapes ». Mais « animerapes », c'est quoi « animerapes » ? C'est très important tout ça. Faites un effort, vous ne faites pas d'effort. Bet vegan. Mais où vous avez vu que ça s'appelle bet vegan? C'est bait vegan, bait vegan. C'est bet vegan. C'est quoi bet vegan? Pourquoi vous négligez votre propre accent? Travaillez cet accent, c'est important. Moi, je fais des efforts en français. C'est pas ma langue natale. Et pourtant, j'essaye de faire des efforts. J'essaye de m'améliorer. Et il faut le faire. C'est très important parce que le langage, c'est synonyme de l'essence. C'est dedans, c'est le yesod. La langue, c'est le yesod. C'est la brit mila de la bouche. C'est seulement quand elle a des rapports avec la gorge et le palais, que les mots sortent. Quelqu'un qui ne joue plus de sa langue, il ne peut plus sortir de mots. Il n'y a plus de mots qui sortent. Quand la langue est comme... Mais c'est la même chose. Quand Yosef est coincé, c'est fini. Vous comprenez que nous avons affaire ici à quelque chose de puissant. C'est déjà fini. Abraham Avinu. Et je termine avec ça. Pourquoi il achète cette Mehara de Marpella et le champ qui est avec de ce bonhomme que la Torah appelle Ephron? Qu'est-ce que c'est Ephron?
Afar.
Alors dis Afar, pourquoi Ephron?
Les
petites. Ah, il y a fait, tu commences à comprendre. Afar, Ephron, que tu appelles aujourd'hui Ipa. Ron. C'est la même chose. Ça veut dire une petite poussière. Ephron égale petite poussière. C'est quoi ça, petite poussière? Donc Abraham va acheter Meharat à Marpella à une petite poussière. Et cette petite poussière va commencer à discuter avec Abraham. Vous croyez que la Torah n'a rien à faire de nous raconter des histoires pareilles? Mais qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, qui s'appelle Ephron? Et s'il s'appelait Napoléon, ça t'aurait fait quelque chose? Oui. Si la Torah te dit qu'il s'appelait Ephron, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Que le Afar, c'est quoi le Afar? La poussière. Et qu'est-ce que la poussière? C'est la mort. Vous savez que quand vous ne faites pas la poussière chez vous, Chas v'Shalom, ça installe des forces négatives dans la maison. Le Hari HaKadosh nous dit de faire très attention, surtout le vendredi, d'enlever la poussière et surtout de faire attention qu'il n'y ait pas des toiles d'araignée. Comme ça, il dit le Harizal. Qu'est-ce que c'est que cette poussière? Eh bien, c'est une connotation de la mort. Quelle est la lettre qui correspond à la mort? Chas v'Shalom. De même, c'est la vie. La lettre Tav, la dernière lettre de l'alphabet, c'est la dernière. C'est pour ça qu'à la fin du mot Met, il y a Tav. Ou Mav, il y a Tav. Alors que le même, c'était la vie.
Comment c'est la vie, le même?
Ben parce que, qu'est-ce que c'est un même? C'est un Kaf et un Vav. C'est déjà la lettre d'Akadosh Baruch Hu. Kaf, c'est 20, et Vav, c'est 6. C'est 26, c'est Akadosh Baruch Hu. Et là, il y a en réalité la matrice de la femme, de là sort le bébé. Le même, c'est une maman. Et qui a les jambes par lesquelles le bébé va rentrer, va sortir. Alors que le même fermé, il est fermé. Il est bouché. Donc lui aussi, il est combien en valeur numérique? 400. La même chose. Alors que le Tav, c'est 400. Donc la lettre Tav, c'est 400. Combien il a payé Abraham Avinu la Mehara?
400.
Ah, c'est intéressant maintenant. Il a payé 400 shekels.
Il a payé la mort.
Quelle est la valeur numérique de shekel? Shekel est en valeur numérique nefesh. Donc lorsqu'Abraham achète la Mehara Tamarpela, 400 pièces, il achète la mort. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il achète la mort? Il fait en sorte que la mort maintenant lui appartient. C'est lui qui la domine. Quand la mort fait ce qu'elle veut, c'est une catastrophe. Abraham vient nous aider en nous disant, ne vous inquiétez pas, j'ai racheté la mort. Elle est maintenant dans ma poche. Ça veut dire que le peuple d'Israël est arrivé sur terre et c'est ce peuple-là qui va abolir cette notion de mort. On l'a racheté, on a fait un rachat de ça.
Wow.
Tadarabah.